Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Question du public.
Vous êtes sur la zone payante et c'est Jean-Nicolas Gagnon en compagnie de Stéphane Cadorette. Et Steph, c'est le moment des questions des auditeurs. Et vous êtes déjà bien nombreux à nous faire parvenir vos questions. C'est le fun. Puis continuez de le faire.
Ouais.
On peut donner peut-être les façons de nous rejoindre, Steph?
Ben, ça peut toujours être par Twitter, par Facebook, email lazonepayante@quebecormedia.com. Moi, je suis très présent sur Twitter. Bon, c'est qu'il y a pas de problème là pour nous rejoindre aussi par là. Et ça aussi, fait vraiment plaisir d'avoir vos questions en passant.
Et aussi, on a un groupe sur Facebook, nos précieux conseils fantasy. Ouais. Alors, si vous voulez aussi vous promener sur ce site, plusieurs personnes font des sondages en se demandant quel joueur je devrais faire jouer. C'est toujours le fun. Moi, j'adore répondre à ces sondages-là et on vous demande aussi au milieu de la semaine de nous poser vos questions. Alors, commençons. Une question de Mathieu. Sans doute un fan des Steelers. Est-ce que les Steelers peuvent survivre sans le joueur de défense de l'année, TJ Watt, blessé à la première semaine pour on ne sait combien de semaines encore, mais pour un bout?
Ben, ouais, heureusement, dans son malheur, les nouvelles semblent un peu plus encourageantes là, depuis le début de la semaine. Après le match, on parlait d'une possible absence pour la saison. Aux dernières nouvelles, il semblerait qu'on soit plus autour de 6 semaines. L'opération serait pas nécessaire. Donc, ça, c'est le bon côté des choses. Par contre, c'est un élément clé. Là, on se fera pas de cachette. Là, je sais pas si tu l'as vu jouer la semaine passée contre les Bengals. Il est complètement diabolique.
C'est incroyable.
Il est tout le temps en face du corps arrière. Il trouve une façon, peu importe le lineman en avant de lui. Donc, c'est un joueur d'impact. Évidemment, on se fera pas de cachette. Les Steelers, il a raté 4 matchs dans sa carrière. TJ Watt sont 0-4 sans lui. Ça, c'est le moins bon côté des choses. Puis tu regardes, là, s'il devait rater 6 semaines, j'ai regardé le calendrier des Steelers. Ils affrontent dans les semaines à venir les Patriots, les Browns, les Jets, les Bills, les Bucks et les Dolphins. Je pense qu'ils sont capables d'aller chercher 2 matchs là-dedans, peut-être 3. Ce qui fait que si t'es, mettons, un 3-3 puis que TJ Watt revient, t'as gagné déjà le premier match de la saison. On parle pas encore d'une catastrophe puis d'une perte insurmontable. J'aime aussi ce que Highsmith peut faire en son absence. Donc, c'est une lourde perte assurément, mais les Steelers peuvent survivre quand même. Là, si c'est 6 semaines, si c'est plus long que ça, oubliez ça.
Question de Robin. Il semble déjà que le titre de MVP sera une course à 3 jusqu'à la fin entre Allen, Mahomes et Herbert. Qu'en pensez-vous? Et deuxième question, il semble aussi que l'homme à abattre comme joueur offensif de la Ligue sera Jefferson. Ça doit te faire plaisir, ça, des Vikings. Pensez-vous que ça peut être une course à 2 avec Chase des Bengals?
Premièrement, salutations à Robin, hein. C'est un lecteur de longue date. On échange beaucoup de courriels, puis c'est un auditeur aussi de la zone payante. Bien content de le compter parmi nous. Donc, Robin, vous êtes salué. Puis pour la question par rapport au MVP, c'est sûr qu'après une semaine, ça ressemble à ça, là, une course entre Allen, Mahomes puis Herbert. Mais je veux juste appuyer sur le break un peu. L'an passé, qui a gagné le MVP? Aaron Rodgers. Après une semaine, Aaron Rodgers, l'an passé...
Il garochait son iPad à terre.
C'est ça. Les Packers se faisaient torcher 38-3 contre les Saints. Il y avait 133 verges de gain, aucun touché, 2 interceptions. Fait que, tu sais, il faut en prendre puis en laisser avec la première semaine. Là, vous le connaissez, moi je le dis souvent, qu'on panique trop puis on est trop encouragé aussi. Là, à l'inverse, les deux effets sont vrais après une semaine. Oui, ils sont les 3 favoris. Là, si on avait à faire un classement aujourd'hui, là, ce serait probablement ces 3-là qui sortiraient. Puis c'est sûr que ça va être un corps arrière parce que 14 des 15 dernières années, le MVP a été un corps arrière. Mais il faut pas enterrer Aaron Rodgers. Il faut pas enterrer Tom Brady. C'est des corps arrière qui constamment performent. Là, donc, j'attendrai un peu avant de, de proclamer le vainqueur.
Puis est-ce que Jefferson est...
Ouais.
Je comprends qu'il y a eu un bon match, là, puis...
Ben, j'adore le voir dans le schéma offensif de Kevin O'Connell, qui était avec les Rams avant, là, rappelons-nous-en. Lui, il utilisait Cooper Kupp un peu partout, à l'intérieur, à l'extérieur. Il le déployait un peu partout dans ses formations, selon les défenses adverses. Puis c'est le rôle qu'il a demandé de jouer à Jefferson. Il lui a demandé dans la saison morte, « Écoute, j'ai un paquet de tape de Cooper Kupp. Je veux que tu étudies ça. Je veux que tu deviennes comme lui. » Fait que c'est sûr que Jefferson va être hyper impliqué dans les succès offensifs des Vikings. Mais c'est un peu la même chose avec Ja'Marr Chase. T'sais. Les deux vont être là. Puis j'ajouterais un troisième candidat, moi. Je fonde de gros espoirs en Jonathan Taylor, le porteur des Colts d'Indianapolis. Malgré le match nul décevant contre les Texans, il a très bien performé. C'est vraiment tout un cheval pour les Colts. Donc, j'ai l'impression que ça va jouer entre ces trois-là.
Jean-François, qui est assez succinct dans sa question. Qu'est-ce qui se passe avec Cam Akers?
Ben, assez succinct, mais c'est une excellente question, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent ça, des poolers notamment. Hein. Cam Akers, moi, ça me fait peur un peu, parce que c'est très rare qu'un porteur de ballon revient à 100% d'une blessure comme il a subi. On se rappelle, lui, c'est une déchirure du tendon d'Achille. On parle souvent du fameux torn ACL, là, le genou, mais ça, c'est encore pire pour un porteur de ballon, le tendon d'Achille. Tu sais, moi, un exemple récent qui me vient en tête, c'est Marlon Mack. Très bon départ avec les Colts, rappelle-toi. Puis, oui. Il est jamais vraiment redevenu le même. Les Colts l'ont libéré. Là, il s'est ramassé avec les Texans. Tu sais, en tout cas, il a même plus le rôle de partant. C'est pas évident. Puis, il y a une affaire que Sean McVay a dit après le match qui m'a intrigué. Il a dit, oui, il va falloir impliquer plus Cam Akers dans le plan de match, mais il va falloir que lui aussi saisisse ses opportunités. Tu sais, on a senti un peu une perte de patience. Puis il a parlé aussi, un fameux terme qu'on entend souvent au hockey, il dit « va falloir que son jeu soit aussi bon sans le ballon ». Tu sais, les fameux joueurs des Canadiens qui doivent être bons sans la rondelle, là, on l'entend tellement à satiété, ça.
Mais qui rate ses assignations en couverture ou…
Et voilà, ou blitz pick-up, tu sais, en protection de passe. C'est peut-être ça qui fait défaut, tu sais, des éléments que à l'œil nu, des fois, on passe à côté quand on regarde vite le match. Mais c'est tout ça qui rentre dans le jeu d'un porteur de ballon. Faudra voir si Sean McVay, c'est juste un petit coup de fouette qu'il a donné puis qu'il va l'utiliser davantage ou s'il est en train de perdre patience. Mais la nature de sa blessure m'inquiète vraiment.
Dominique Casavant pose la question suivante. Est-ce que vous croyez que Todd Boehling, le coordonnateur offensif des Titans, ça va être sa dernière année avec le club et même probablement se faire congédier pendant la saison?
C'est pas impossible. Todd Downing, en passant, c'est très controversé. Là. Depuis l'an passé, là, qui se fait pas mal blâmer. Il faut dire qu'avant lui, c'était Arthur Smith, qui était très apprécié au Tennessee, qui a ensuite eu la job de head coach des Falcons d'Atlanta. Depuis qu'il est là, Downing, c'est plus compliqué, là, tu sais, c'est moins fluide. Des choix de jeu bizarres, je pense au quatrième quart là, contre les Giants. Les Titans avaient l'avance, se retrouvent en situation de 3 et 1. C'est quoi le réflexe? 3 et 1, t'as Derrick Henry.
D'après
moi, mais non, ils ont essayé de la dentelle, un jeu renversé avec un tight end. T'sais, c'est... Il y a matière à contester ces choix de jeu. Robert Woods aussi, le nouveau receveur là-bas, qui a à peu près pas eu le ballon. Puis, ce qui guette comme danger Todd Downing... Puis ce que les fans des Titans salivent, c'est qu'il y a Tim Kelly qui attend. Tim Kelly, c'est le coordonnateur du jeu aérien. Il est vraiment le candidat logique pour le remplacer. Donc, si vraiment ça fait plus avec Downing dans les prochaines semaines, la corde va être très, très courte parce que Tim Kelly, c'est un homme qui est bien en vue dans la NFL. Il a fait du bon travail avec les Texans là, dans les dernières années, malgré une attaque qui vraiment avait pas nécessairement les éléments pour performer. Donc, c'est sûr qu'il pourrait être appelé à prendre le relais plutôt que tard.
Louis Vachon, qu'est-ce qui explique la quantité phénoménale de blessures à des joueurs importants en fin de semaine? Je sais pas, y en a-tu eu tant que ça?
Ben, il y en a eu quelques-uns, là. On parlait de TJ Watt, Dak Prescott, mais je pense pas que c'est un phénomène particulier cette saison, puis c'est à peu près ça à chaque début d'année, malheureusement, là. On aimerait ça qu'il n'y en aille pas, là. Puis après, ben il y a différents facteurs. Tu sais, je sais qu'il y a eu quelques blessures chez les Chiefs, puis Andy Reid a blâmé le turf en Arizona. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça, mais Une des théories, c'est « Ah, c'est parce que les partants jouent de moins en moins en match pré-saison ». Mais je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que par les années passées, combien de blessures arrivaient durant ces fameux matchs pré-saison? C'est pour ça qu'on les a un peu retirés. Donc, à mon sens, il y a juste pas de solution magique.
Louis-Xavier Montmini, qui nous écrit, sans doute un partisan des Seahawks, il dit « Quelle est votre analyse de la ligne offensive des Seahawks après la victoire contre Denver? Peut-on s'attendre à ce que ça se poursuive, notamment du côté des recrues Charles Cross et Abraham Lucas? »
Un gars qui connaît visiblement bien son équipe, tu sais, c'est pas évident là, pour les Seahawks de partir la saison avec deux bloqueurs recrues. Moi, grosso modo, j'ai aimé là, ce que j'ai vu des deux. Tu sais, j'ai regardé pas mal le Monday Night. Ce qui est le fun, un match d'heure à grande écoute, c'est que tu switches pas là, entre différents exact. Postes. T'as pas le Red Zone Channel allumé qui te distrait un peu. Tu sais, tu te concentres vraiment sur le match. Fait que c'est plus facile de voir des choses comme ça à l'œuvre. Puis je regardais beaucoup la ligne à l'attaque des Seahawks parce que je me disais deux bloqueurs recrues à gauche, à droite. Ça peut être désastreux. Là. T'sais, il y a un potentiel très dangereux par rapport à ça. Mais t'sais, Charles Cross, c'est un choix de première ronde. Il fallait s'attendre à ce qu'il performe bien. Étonnamment, c'est, à mon sens, Lucas qui a encore mieux performé. Cross a eu un bon début de match. Ça s'est gâté un peu par la suite. Je pense qu'honnêtement, c'est très bon pour les Seahawks que ces deux gars-là jouent rapidement. Puis j'ai l'impression qu'ils vont être solides. C'est une ligne offensive qui m'apparaît clairement améliorée là, par rapport aux dernières années où Russell Wilson courait constamment pour sa vie. On va attendre avant de s'emballer, là, mais pour moi, c'est encourageant là, ce que j'ai vu de ce côté-là.
Merci Stéphane. Merci à vous, les auditeurs, de nous poser des questions chaque semaine pour rendre cette émission dynamique. C'est pour vous qu'on l'a fait. Alors, n'hésitez pas la semaine prochaine à continuer à poser des questions à l'expert. On se laisse là-dessus pour le moment parce qu'après la pause, c'est le temps des prédictions. On va voir que ça n'a pas été facile la première semaine, mais on va se reprendre la deuxième semaine. Bougez pas.